7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, reportage en Ouganda, auprès d'anciens enfants soldats qui se reconstruisent grâce à la musique. Il serait entre 60 000 et 100 000 enfants à avoir été recrutés de force en Ouganda par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, groupe de rebelles dirigé par Joseph Kony. Joseph Kony, toujours recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. En 30 ans d'existence, selon les Nations Unies, la LRA aurait tué 100 000 personnes dans ce pays d'Afrique des Grands Lacs. Aujourd'hui, la milice est affaiblie dans le pays. Elle s'est déportée au Soudan du Sud voisin, en République centrafricaine et en RDC. Et les anciens enfants soldats d'Ouganda, filles et garçons, sont revenus dans leur village. Jeunes adultes, ils vivent désormais au banc d'une société qui ne veut pas les accepter. Grâce à plusieurs ONG comme Children of Peace, à Lira, au nord du pays, ces garçons et ces filles, anciens meurtriers, réapprennent à vivre loin de la violence et à chanter, eux et leurs enfants nés des viols. Un travail mené avec l'association française Voix sans frontières. Alors, quel avenir pour eux, qui pour la plupart ne savent ni lire ni écrire? Quelle résilience pour ces enfants? Quel rôle peut jouer la musique pour les aider? C'est un reportage de Charlie Dupio dans la région de Lira. Nous sommes exactement à 6 heures de route de la capitale, Kampala. Pour démêler l'histoire de Janet, 27 ans, il a fallu des heures. Le regard baissé, les cheveux courts, c'est une silhouette presque voûtée qui raconte.
J'ai été enlevée quand j'étais en classe, à l'école primaire. J'avais seulement 12 ans. Je me souviens de la date précise, ça s'est passé le 15 juin 2003. Nous étions en examen de fin de trimestre à ce moment-là, c'était un examen d'histoire. Des gens sont arrivés, habillés comme des soldats. Et ils nous ont attachés avec des cordes, les uns derrière les autres.
Tous les enfants de la classe?
La plupart des enfants de notre classe ont été enlevés, même si certains ont pu s'échapper. Pour nous, c'était difficile. L'attaque a commencé dans notre classe. Ils sont ensuite allés dans deux autres salles de classe où ils ont enlevé beaucoup d'enfants.
Et alors, votre enseignant?
Quatre enseignants ont été tués sur le moment. Plusieurs ont été enlevés aussi, et les autres ont réussi à s'enfuir.
Vous avez des larmes aux yeux.
Oui. À chaque fois que je raconte cette histoire, ce dont je me souviens, c'est mon frère. Il était dans la même école que moi, dans une autre classe. Quand il a été enlevé, lui aussi, on lui a donné une femme très âgée, qu'il était censé prendre pour femme. Il a refusé, et ils l'ont décapité, avec une machette. Il a été tué le jour même de notre enlèvement. J'ai assisté à ça, je l'ai vu. Ce qui m'a permis de survivre, c'est que je n'ai pas révélé qu'il était mon frère, que nous étions de la même famille. Sinon, moi aussi, j'aurais été tuée.
Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc, votre frère est mort sous vos yeux. Qu'est-ce qui s'est passé?
3 mois après mon enlèvement, on m'a aussi donné à un homme plus âgé pour que j'aie des relations sexuelles avec lui. Il avait près de 28 ans, j'en avais 12. J'ai rejeté cet homme, et quand je l'ai rejeté, il a voulu me tuer. Il ne l'a pas fait, un autre membre du groupe de rebelles a reçu l'ordre de me poignarder. J'ai été poignardée au ventre, avec la baïonnette d'un fusil.
Vous avez relevé votre t-shirt pour qu'on voit en fait la cicatrice au-dessus du nombril.
C'est entré ici et c'est passé jusque-là.
C'est une grosse cicatrice.
Oui, c'est une grosse cicatrice. Elle a été recousue. On voit les marques des points de suture. Après ça, je me suis évanouie. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Quand je me suis réveillée, on m'avait recousue. Ils te donnent à un homme et si tu le rejettes, ils veulent te tuer. Et si on t'envoie tuer quelqu'un et que tu ne le fais pas, c'est toi qui seras tué.
Ça veut dire que vous avez dû tuer ?
Oui. Normalement, quand on quitte la forêt, quand on sort du bush pour chercher de la nourriture, si on trouve des gens qui se cachent dans les camps, on les tue. La première personne que j'ai tuée, c'est un vieil homme qu'on a rencontré chez lui. Il essayait d'attraper des bananes sur un arbre. Les rebelles m'ont ordonné de tuer ce vieil homme. Et ils m'ont dit, si tu ne le fais pas, on te tue. C'est eux qui choisissent pour toi l'arme que tu vas utiliser pour tuer. Là, ils m'ont donné une machette. Et je devais tuer cet homme si je voulais survivre. Je me suis sentie tellement mal après avoir fait ça. Quand on est rentré ensuite, j'ai commencé à pleurer sur le chemin du retour. Ils m'ont vu pleurer et ils ont voulu me tuer en me disant « Pourquoi tu pleures ? Si tu pleures, ça veut dire que tu compatis avec la personne que tu as tuée. Ce n'est pas normal. » Mais un des membres du groupe de rebelles les a empêchés de me tuer. J'ai été sauvée. En fait, si tu ne suis pas les ordres, tu mets ta vie en danger. Et quand ils disent « Aujourd'hui, c'est un jour où on tue seulement », alors il faut obéir, il faut tuer. S'ils disent « Aujourd'hui, nous brûlons des maisons », alors c'est ce que l'on fait. On brûle les maisons avec les gens à l'intérieur. Nous allions dans les camps de déplacés où les gens s'étaient installés pour fuir leur village, pour fuir la guerre.
Et pourquoi est-ce que vous pensez que la LRA, donc ce groupe de rebelles qui a sévi dans le nord du pays, utilisait des enfants ? Capturer des enfants. Comment vous compreniez ça en fait ?
Au fond de ma tête, ce que je pensais, c'est qu'ils nous forçaient, nous les enfants, à tuer, pour mieux nous intégrer à l'équipe, pour que nous fassions partie du groupe. Et puis c'est un signal envoyé aux soldats de l'armée qui nous poursuivent, pour les effrayer. Chaque fois, nous laissions les cadavres à l'air libre, sans les recouvrir. On essayait d'éviter qu'ils ne retrouvent notre trace. On se cachait. Mais quand tu es avec eux, la LRA, ils te lavent le cerveau, c'est certain, pour que tu suives les ordres qu'ils te donnent. Tu as rejoint le groupe et c'est ce qu'ils font avec tout le monde. Il y avait plusieurs groupes de rebelles. Dans chaque groupe, nous étions près de 200. Les filles étaient nombreuses. Dans mon groupe, elles étaient même plus nombreuses que les garçons. Et il y avait une majorité d'enfants.
Donc vous m'avez raconté votre premier meurtre, donc ce vieil homme. Ensuite, est-ce que vous vous souvenez de combien de personnes vous avez tuées en tout ?
Oui, je me souviens. 48 au total. J'ai tué 48 personnes. Le plus souvent, en leur tirant dessus avec un pistolet. J'ai tué des enfants, des femmes, des personnes âgées. Tout cela, je me souviens spécifiquement de les avoir tués, toutes seules. Mais il y en a eu d'autres que nous avons tués en groupe. Quand nous mettons le feu au village en répandant de l'essence, nous ne sommes jamais seuls.
Et donc vous aussi, vous avez participé à ça, à mettre le feu à ces camps ?
J'ai du mal à me souvenir où nous avons brûlé des villages. Mais je sais que je l'ai fait en région Acholi, tout au nord du pays. Mais aussi dans un village près d'ici, près de chez moi. J'ai aussi participé au massacre du village de Barlounio en 2004, dans lequel 200 personnes sont mortes, la plupart brûlées. À l'époque, je ne réalisais pas que ces meurtres étaient graves, que cela posait problème. Mais quand je suis rentrée, quand j'ai réussi à m'échapper, j'ai commencé à reprendre mes esprits. Et là, j'ai réalisé que ce n'était pas normal. Mais je n'avais pas le choix.
Quand la violence devient la norme aux yeux de ces enfants qui n'en sont plus, y compris des filles d'ailleurs, Charlie Dupiau.
Oui, j'aimerais vous donner ces quelques chiffres. L'UNICEF estime qu'il y aurait 250 000 enfants soldats dans le monde, dont 40% de jeunes filles et la plupart sur le continent africain. Alors on va retrouver Janet dans la pénombre de sa case qu'elle partage avec deux de ses enfants. Elle a le visage marqué, l'air d'avoir 10 ans de plus que son âge. Elle vit dans un village au bout d'une piste de latérite, au milieu des champs de manioc, de haricots et tournesol. Nous sommes un peu au nord de l'Ira, on se rapproche de la frontière avec le Soudan du Sud. Et c'est dans cette région, près de la frontière, que Janet est parvenue à s'échapper.
J'ai passé 4 ans en captivité. J'entrais dans ma cinquième année et j'étais lourdement enceinte de mon premier enfant, Cinderella. Je ne me sentais pas bien, j'étais fatiguée et porter des armes chargées tout le temps m'est devenu très difficile. Ma cicatrice sur le ventre me faisait mal, j'avais besoin d'un traitement. J'avais peur de mourir avec l'enfant. Tout ce que je voulais, c'était atteindre les casernes les plus proches des soldats de l'armée ougandaise que nous combattions. Je voulais me rendre. J'avais peur aussi, parce qu'on nous avait toujours dit que si nous tentions de nous échapper, nous serions tués. J'ai déjà vu des gens être abattus alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Mais mes parents me manquaient beaucoup. Je voulais rentrer et les revoir. J'étais fatiguée de me battre. Alors nous avons été quatre. Quatre filles à préparer un plan pour nous échapper. Sur les quatre, deux sont mortes en chemin. L'une est tombée dans une canalisation. L'autre est morte de faim. Elle ne voulait pas manger les plantes avec lesquelles nous survivions. Nous n'étions que deux quand nous sommes arrivés dans une caserne de l'armée. On nous a emmenés dans un centre de réhabilitation géré par une ONG américaine, à Goulou, dans le nord du pays. J'y suis restée un mois. Puis on m'a ramenée à Lira, près de mon village. On a tenté de joindre mes parents. J'ai alors appris que mes parents avaient été tués par la LRA, chez eux, pendant que j'étais en captivité. Personne ne m'attendait quand je suis rentrée.
En fait, ici, c'était la maison de votre famille ?
Oui, c'est celle de mes parents.
Comment vous avez été perçue ? Comment ça s'est passé, votre tour ?
Quand je parle à mes voisins ici dans le village, ils m'insultent. Dès que j'essaie de planter quelque chose dans ma ferme, j'entends qu'on crie « Regardez cette rebelle qui vient de rentrer, elle se croit plus forte que nous !» Ils ne veulent pas que je récolte quoi que ce soit. Ils préféraient que je stagne, que je reste sans rien. Je suis un problème pour la communauté. Je fais pousser du soja, du mil, du maïs et des haricots. Et souvent, les villageois alentours envoient leurs vaches manger ce que j'ai planté dans mes champs. Venez, je vais vous montrer une plantation sur laquelle des vaches sont venues brouter mon manioc. J'ai essayé de parler au voisin que je savais responsable de cela, mais il a nié et il m'a insulté. Vous allez voir.
Là, oui, de l'extérieur, on voit vos plantations.
Ce maïs que vous voyez a aussi été saccagé par les animaux de mes voisins. Et ici, c'est donc une de mes plantations de manioc. Les vaches ont tout détruit. Vous voyez les espaces vides ? Cela m'avait pris 2 jours de planter tout ça.
Donc c'est 2 jours de travail gâché.
Oui, et tout ce que je plante, c'est pour nourrir ma famille.
Quand est-ce que ça s'est passé ?
Il y a une semaine, j'étais sortie pour me rendre à un club de paix, une réunion organisée dans notre communauté pour la réconciliation, justement. Quand je suis rentrée, les vaches étaient déjà reparties. Et voilà le résultat. Les villageois ici ne supportent pas l'idée qu'il puisse m'arriver quoi que ce soit de bon. Et puis il y a aussi ma fille, Cinderella, dont j'ai accouché quand je suis revenue au village. Quand les autres enfants jouent avec ma fille, ils la frappent. J'ai essayé de discuter avec leurs parents, car c'est devenu un problème. Mais plutôt que de me répondre, ils me disent « Toi, la rebelle, qu'est-ce que tu crois que tu peux faire ?» Le nom rebelle est toujours sur moi. Il ne disparaît pas, il ne s'efface pas. Et ma fille, conçue en captivité, est aussi surnommée rebelle dans le village, comme moi.
Et qu'est-ce que vous espérez pour votre fille ?
Je rêve qu'elle devienne infirmière. C'est ça mon rêve de mère. Comme ça, les gens qui la voient aujourd'hui comme une rebelle la verront demain comme une étoile, qui les guérira quand ils seront malades. Une étoile pour la communauté.
Vous Jen et Caillou, vous avez fondé l'ONG Children of Peace of Uganda, à Lira, au nord du pays. Et en fait, là, on vient de rencontrer Janet, qui a été enrôlée par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Et avec eux, elle a été forcée de commettre des crimes. Ces enfants soldats pouvaient être en fait des garçons et des filles.
Yes, both boys and girls.
Oui, à peu près autant de filles que de garçons. Les chiffres sont équivalents. La plupart de ces enfants ne savent ni lire ni écrire. Parmi tous ceux qui ont été enlevés, 80% sont aujourd'hui analphabètes. La LRA a été active de 88 à 2006, année où il y a eu une tentative d'accord de paix entre le gouvernement ougandais et les rebelles de la LRA de Joseph Kony. Quand la LRA est née, les rebelles disaient ne pas être satisfaits du pouvoir en place sous l'actuel président, Yoweri Museveni. Pour le renverser, ils ont commencé à se cacher derrière la religion chrétienne. Ils disaient vouloir instaurer un régime fondé sur les 10 commandements de la Bible. Mais ils ne suivent aucun de ces commandements, aucun. Parmi les 10 commandements, il y a « ne tuez point, ne volez point ». Mais c'est exactement ce qu'ils font. Ils tuent, ils torturent des enfants.
Et en fait, ce que nous raconte aussi Janet, ce que nous raconte beaucoup, c'est la stigmatisation dont ils sont aujourd'hui victimes, comme s'ils étaient doublement victimes, en fait, de ce qu'ils ont vécu et de ce que ça laisse comme trace sur eux.
Oui, le niveau de stigmate à l'encontre des enfants qui ont été enlevés est toujours très important dans nos communautés du nord de l'Ouganda. Pour moi, c'est encore pire pour les filles qui ont été enfants soldats. Pour elles, je parle de triple tragédie. Parce que d'abord, comme les garçons, elles ont été enlevées, entraînées à devenir des enfants soldats. C'est le premier stigmate. Elles ont aussi été données comme esclaves sexuelles au commandement de la LRA. À leur retour, elles sont vues comme les épouses des rebelles. Et puis ces filles sont revenues dans leur village avec des enfants nés de cet esclavage sexuel et de ces viols. Comme les enfants sont là, présents avec elles, ils leur rappellent en permanence ce qu'elles ont vécu en captivité. Et la communauté pointe du doigt ces enfants, eux qui sont considérés comme des étrangers dans le village. Ils sont associés à leur père biologique. On les surnomme souvent Joseph Kony, du nom du leader de la LRA. Alors que ces enfants ne savent même pas qui est Joseph Kony. À chaque fois qu'ils jouent avec des enfants du village, on les appelle rebelles, mais ils ne comprennent pas. C'est très difficile pour les enfants, et c'est très difficile pour leur mère, car elles ne peuvent pas expliquer à leurs enfants qui sont très jeunes ce qui s'est vraiment passé.
Et certains enfants en fait, ne savent pas vraiment ce qu'ont vécu leurs parents.
Aujourd'hui encore, nous aidons leur mère à s'en remettre. Mais ce que j'aimerais que les gens comprennent, la question que nous posons aux communautés dans les villages, c'est dans quelles circonstances ces enfants ont-ils fini entre les mains des rebelles ? Ils ne sont pas devenus enfants soldats de leur plein gré. Nous avons échoué à les protéger en tant que communauté. Nous avons failli à notre devoir, nous, notre nation, notre continent et même la communauté internationale. Et ils sont tombés entre de mauvaises mains. Ils ont été endoctrinés. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi à rentrer chez eux, après avoir été sauvés par l'armée ougandaise ou après s'être enfuis, on les stigmatise. Mais nous ne sommes pas en position de les juger, parce qu'à un moment, nous n'avons pas été là pour ces enfants. C'est ça la réalité.
Et aujourd'hui, Charlie Dupiot, le gouvernement ougandais est-il là pour ses enfants, justement?
Alors, ils ne sont pas considérés comme criminels par la justice ougandaise. Quand ils reviennent, l'Ouganda a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, qui rappelle que les enfants n'ont ni la maturité, ni le développement physique et mental nécessaire pour comprendre la gravité et les conséquences de leur enrôlement dans ces troupes rebelles. Alors aujourd'hui, ils reviennent sur les terres et dans les cases de leurs parents, souvent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, en fait. Et pour mieux comprendre les stigmates laissés par le conflit, nous quittons le village de Janet, nous empruntons une piste qui est difficilement praticable. On traverse les plantations un lendemain de pluie, dans le vert éclatant et le rouge de la terre. Nous allons rencontrer Denis, lui aussi a été enfant soldat, kidnappé par la LRA. Alors, donc on est arrivé dans un petit village où il y a trois cases. L'herbe autour de nous est d'un vert éclatant. On voit que la saison des pluies est passée par là. Bonjour Denis.
Bonjour, bienvenue. Je vis ici.
On a plusieurs enfants là qui sont arrivés jusqu'à nous.
Ce sont mes enfants. Leur mère est morte. Mon aîné a 12 ans. Mes autres enfants ont 9 ans, 7 ans, 6 ans et le dernier 3 ans.
Et alors ils ne sont pas à l'école ?
Seulement deux y vont. Je peux seulement payer les frais de scolarité pour deux d'entre eux, dont ma fille. Ça coûte 50 000 shillings ougandais par trimestre pour chacun, en comptant les repas à l'école.
C'est à peu près un peu plus de 10 euros, 12 euros. Et ça, c'est pour un trimestre. Pour l'année, ça coûte 36 euros.
Oui, c'est beaucoup d'argent pour moi. Je travaille comme fermier.
Quel âge vous avez, Denis ?
J'ai 29 ans. J'ai été enlevé dans mon village à l'âge de 19 ans. J'ai passé 5 ans en captivité. La première année, j'étais chargé de faire la cuisine, de laver les vêtements des commandants de la LRA. J'allais aussi leur chercher de l'eau. Après un an, j'ai commencé à me déplacer avec les autres pour chercher de la nourriture et à me battre à leur côté contre les soldats ougandais. Ma plus grande peur, c'était les attaques fréquentes, presque quotidiennes, de l'armée ougandaise. On se nourrissait surtout avec des feuilles, des arbres et des racines aussi.
C'est tout ce que vous mangiez.
De temps en temps, on chassait des animaux de la brousse, des cochons sauvages ou des ânes. Mais nous, les soldats, nous pouvions seulement boire la soupe dans laquelle ils avaient cuit. Seuls les commandants mangeaient la viande. J'avais très faim en permanence. Et cela me rendait très faible, tellement faible que parfois je n'arrivais pas à réaliser les tâches qui m'étaient attribuées. Parfois, je ne parvenais pas à porter les sacs de haricots, de nourriture ou les armes lourdes qu'on devait porter sur le dos. Il m'arrivait de tomber par terre. Et alors, on me frappait. Nous marchions longtemps. J'étais fatigué, mais on ne me laissait pas le temps de me reposer. Aujourd'hui, je suis atteint du sida. Je ne le savais pas avant de revenir ici à la maison. À mon retour, je n'arrêtais pas de tomber malade. Alors je suis allé à l'hôpital et j'ai été choqué d'apprendre ce dont j'étais atteint. On m'avait attribué une femme quand j'étais en captivité. Une femme qui était sûrement contaminée.
Est-ce que vous avez aussi dû tuer des gens dans les villages ?
Oui, et parfois j'y pense la nuit quand je dors dans mes rêves. Je vois leur visage. Aujourd'hui dans le village, on me dit que j'ai perdu la tête, que mon cerveau ne fonctionne plus bien. La nuit je crie à cause de mes cauchemars. Je cours dehors, je ramasse des pierres, des bouts de bois et je les lance en l'air, dans le vide. Les voisins n'aiment pas quand je fais ça. Ils me disent que je suis fou. Et quand un voisin me dit ça, je ne l'écoute pas, je passe mon chemin. La plupart des gens ici pensent que j'ai fait partie des rebelles qui sont venus dans le village et qui ont tué leurs proches. C'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Je sais que je n'ai tué personne dans cette région. J'étais loin, au Soudan. Quand je suis revenu, je suis d'abord passé par un centre de réhabilitation géré par une ONG. Plusieurs semaines. On m'a appris comment bien me comporter en communauté. J'ai essayé d'apprendre à ne plus être violent. Aujourd'hui, je ne me sens plus violent. Je me sens faible. Et je n'ai plus envie de me battre, en fait. Je ne m'en sens pas capable.
Ça fait près de 5 ans que vous êtes revenu ici. Et aujourd'hui, à quelle stigmatisation vous faites face ?
Mon travail, c'est d'enlever les mauvaises herbes dans les plantations. Aujourd'hui, la plupart des gens ne veulent pas me laisser travailler dans leurs champs. Et ceux qui acceptent de m'employer me paient moins que les autres fermiers à qui ils font appel. Si les autres reçoivent 2000 shillings par jour, moi j'en reçois 1500 ou même 1000, même pas 25 centimes d'euros.
Et quelle excuse est-ce qu'ils donnent pour cette différence de salaire ?
Ils me disent qu'ils sont heureux de me voir mourir de faim avec mes enfants. C'est ça la raison qu'ils me donnent. J'ai le cœur brisé quand j'entends ça. Je me sens triste, très triste, de savoir que je suis moins payé que les autres quand je travaille. Alors que si je travaille, c'est pour nourrir mes 5 enfants, pour qu'ils aient quelque chose à manger.
Et qu'est-ce qu'ils mangent tous les jours, vos enfants ? Combien de fois par jour vous pouvez leur donner à manger ?
Ils ne prennent qu'un repas par jour, surtout des légumes. Mais de temps en temps, quand j'ai un peu d'argent, je peux leur acheter des haricots.
Donc ils sont mal nourris en fait.
Oui, je me sens mal parce que je sais que ce que je donne à mes enfants ne leur suffit pas. Et il n'y a rien que je puisse faire.
La Hope, on est arrivé dans un autre village.
A well of village.
Yes. On a ici une vingtaine de femmes qui sont assises en fait sous une toile bleue. Donc elles sont à l'abri, elles sont à l'ombre. Avec leur bébé en train de leur donner à manger, de cuisiner. Hello. Est-ce que vous connaissez des gens autour du village ou dans d'autres villages qui ont été capturés par la LRA, qui sont revenus ?
Oui, il y a un homme dans ce cas, pas très loin d'ici. J'en connais aussi un, il vit dans mon village, là-bas, un peu plus loin.
Quel regard vous portez sur eux ?
Je ne veux pas les voir de mes yeux, dans notre village ou même à proximité de ma case. Quand je les vois, j'ai envie de les frapper et de leur dire de partir. Je n'ai pas du tout envie de les voir, pas du tout.
Pourquoi ?
Parce qu'ils ont tué mes enfants. L'un de mes enfants avait 10 ans, un autre 24 ans. Ils ont mis le feu à notre maison. Ils ont emporté une de mes vaches. Ils m'ont volé. Dès que je les vois, j'imagine qu'ils viennent faire la même chose que ce qu'ils ont déjà fait. Je ne veux pas les voir, vraiment pas.
Mais les gens dont vous parlez, ceux qui ont tué, c'est aussi des gens qui ont été capturés, des enfants qui ont été capturés, qui aussi ont été victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est dommage pour eux. Ils ont été enlevés, c'est vrai, mais je m'en fiche. Par contre, je ne me fiche pas de ce qu'ils ont fait. Ils ont tué mes enfants, ça je le sais.
Comment vous appelez, madame ?
Je m'appelle Sophia.
Et quel âge vous avez ?
52 ans.
Et vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez ?
Petit copain.
Je n'aime pas ces enfants qui ont été enlevés et sont revenus. Ils ont fait de moi une orpheline. Ils ont tué mon père en 2003. Et à cause de cela, je n'ai pas pu aller à l'école. J'ai été mariée à l'âge de 16 ans. Si mon père était resté vivant, je n'aurais pas été obligée de quitter l'école aussitôt pour travailler à la maison. Non, vraiment, je ne les aime pas. Quand je les vois, j'en ai peur. Je tourne les talons, je change de chemin, je ne veux pas me rapprocher d'eux. J'approuve ce que certains villageois leur font subir. Je crois que s'ils le pouvaient, s'ils avaient du soutien, ils referaient la même chose, ils reprendraient les massacres. Pour moi, ils restent violents au fond d'eux. Alors, de savoir qu'ils ont faim, cela ne me fait rien. Au contraire, je suis contente. À mes yeux, ce ne sont pas des victimes. S'ils étaient vraiment des victimes, ils n'auraient pas commis les atrocités qu'ils ont commises. Ils auraient pu refuser de tuer, ils auraient pu refuser de brûler les maisons des gens. Ils auraient dû accepter d'être tués au lieu de tuer eux-mêmes.
Ça veut dire que vous ne leur pardonnerez jamais ?
C'est trop difficile pour moi de leur pardonner, même si j'essaie parfois. Mais dès que je les vois près de moi, je repense à tout ce qui s'est passé. Cela fait encore grandir un peu plus la colère qui est en moi et ne me quitte pas.
La réconciliation a des allures d'utopie dans cette région du nord de l'Ouganda, marquée par près de 20 ans de guerre avec la LRA, l'armée de libération du Seigneur, qui voulait renverser à l'époque le gouvernement de Yoweri Museveni et a enrôlé au moins 60 000 enfants soldats.
Actuellement, Dominique Ongwen, qui lui est considéré comme le numéro 2 de la LRA, est jugé à La Haye. La deuxième phase de son procès a eu lieu en avril dernier. Et ce qui est particulier dans le cas de Dominique Ongwen, c'est que lui-même a été enlevé quand il était encore enfant. Est-il une victime ou est-il un bourreau ? Ça, la plupart des Ougandais le considèrent aujourd'hui comme un bourreau qui doit être puni.
Au sein des villages, Charlie Dupiot, quelles sont les initiatives maintenant pour la réconciliation des populations ?
Presque rien n'est fait du côté des autorités, mais il y a heureusement l'aide humanitaire. L'ONG Children of Peace organise chaque samedi des clubs de la paix, des réunions d'habitants, souvent en musique, dans une dizaine de villages. Des femmes bénévoles jouent aussi le rôle de relais communautaires. Elles écument les villages à pied pour déjà un travail de prévention, pour s'assurer par exemple que les femmes enceintes vont bien consulter pendant leur grossesse. Mais certaines font aussi tout un travail de sensibilisation auprès des habitants. Et j'en ai rencontré une, Evelyne, qui m'a dit que dès qu'elle peut, elle dit aux habitants qu'elle rencontre « Ne stigmatisez pas ces anciens enfants soldats. Imaginez que ce sont vos enfants qui ont été enlevés et forcés de commettre de telles atrocités. » Et en attendant, pour se reconstruire, la musique s'immisce dans le quotidien de ces anciens enfants soldats, avec l'ONG Children of Peace, qui se définit comme chrétienne et dont on a entendu la fondatrice, Jen et Caillou. L'ONG, quand elle peut, essaie de les inscrire à l'école. Et depuis février, elle a lancé une chorale avec une soixantaine d'enfants et surtout l'appui de l'association française Voix sans frontières, pour laquelle la voix est un outil de résilience. J'ai assisté à une répétition, donc ils sont tous en cercle dans un grand hangar au sein d'une école primaire au cœur de Lira, dans le nord de l'Ouganda. Ils chantent sous le regard attentif des chefs de chœur, Célia, Frédéric et Mayata.
Là, vous leur avez fait faire des exercices de respiration.
Oui.
Puis elle les vocalise par groupe.
C'est ça, on a fait des vocalises du coup par groupe, soprane, alto, ténor et basse. Donc ils sont divisés par quatre groupes.
Et donc vous répétez en vue d'un concert, vous nous expliquez un peu ?
Alors oui, on a un grand concert qui vient, ils ont un festival musical qui se passera à Kampala.
Et, dans la capitale.
Dans la capitale du coup d'Ouganda, et c'est le concert d'ouverture du coup. Et on nous a demandé de chanter, et ils ont à peu près 30 minutes, je crois, si je raconte pas de bêtises. Et ils feront à peu près 5 à 6 chansons, je crois, plus une danse. Bon, ils sont impatients et ils ont hâte, donc j'ai hâte qu'on prenne ce bus et qu'on y aille.
Hear my prayer as I vient de quitter la répétition avec Isaac, donc qui est un ancien soldat.
Alléluia day by day. Alléluia day by day.
Votre visage s'éclaire quand vous chantez.
Chanter, cela me rend heureux. Et parfois, ça me fait oublier ce qui m'est arrivé dans le passé. C'est pour ça que j'aime autant chanter. Surtout les chansons gospel. Je chante depuis que j'ai rejoint l'ONG Children of Peace, il y a 4 ans. C'était en 2014. Je suis resté en captivité près de 4 ans. J'ai été enlevé par la LRA à l'âge de 12 ans. Et j'avais 16 ans quand je suis revenu. Aujourd'hui, je me sens bien car j'ai pu être suivi par les assistantes sociales de Children of Peace. J'ai eu un accompagnement psychologique. J'ai aussi pu retourner à l'école. C'est comme ça que j'ai réussi à me reconstruire.
Je suis Frédéric Setojo, Togolais d'origine et pasteur en Alsace.
Et alors, vous êtes venu plusieurs fois, en fait, 3 fois, pour accompagner ces enfants. Comment vous avez vu que le chant les aidait ? En quoi ça les aide ?
Alors, quand vous venez là-bas, à l'IRA, les enfants qui portent le masque de la souffrance, le masque de la douleur, et lorsque vous les faites chanter, le premier chant est un chant de la gorge étouffée qui ne sort pas, parce que toute cette inhibition est là. Et lorsque vous continuez le travail, et le bouchon, excusez-moi le mot, saute. Et on voit le corps se transformer, les visages s'ouvrir, la posture physique. Mais quand le sourire revient, c'est que quelque chose renaît. On connaît cet aspect de la musique comme outil de socialisation en Afrique. On est avec le chant, par le chant. On se marie par le chant, on va dans les plantations en chantant, on revient en portant l'eau sur la tête, en chantant le fagot de bois. Tout est occasion de chant. Le chant accompagne la vie. Le chant rythme toute la vie. Pour ces enfants qui ont traversé des histoires difficiles, dures, et si le chant était le moyen de les mettre debout, n'oublions pas que c'est le chant qui a aidé les Américains, les esclaves aux États-Unis, à pouvoir se mettre debout, à pouvoir continuer leur lutte. Et quand ils chantent « Oui, Shalom, Vakam », ce chant-là est en soi comme une devise. Nous, ici, nous chantons pour donner courage aux enfants.
Jen et Caillou, fondatrice de l'ONG Children of Peace Ouganda.
Il arrive souvent que ces anciens enfants soldats agressent des gens. J'ai accompagné 3 garçons qui ont tué une femme âgée parce qu'elle les stigmatisait. Je les ai suivis en psychothérapie. Ils ont été envoyés en prison, mais à l'époque, ils étaient mineurs. La police nous a appelés pour que nous venions les récupérer au poste de police et que nous puissions continuer à les accompagner. Je sais que ce type de meurtre a pu arriver dans d'autres communautés. J'en connais aussi qui se sont mariés et qui sont devenus très violents avec leur femme ou leur mari, et même avec d'autres membres de leur famille. C'était le cas de garçons et de filles qui avaient été enfants soldats. Dès qu'un moindre détail les met en colère, vous les voyez s'énerver, devenir très violents. Ils veulent se bagarrer, cela arrive souvent. La plupart du temps, leur violence émerge sous la forme de bagarres d'ailleurs. Mais vous savez, j'ai une peur. C'est que s'ils ne sont pas aidés, s'ils ne sont pas accompagnés, il est très probable qu'ils puissent facilement se regrouper et former ensemble une nouvelle rébellion, plus grande. C'est un vrai risque, un réel problème.
Vous voulez dire qu'on pourrait avoir un retour, peut-être pas de la LRA sous la forme actuelle, mais d'un autre groupe de rébellion ?
S'ils ne sont pas aidés, que voulez-vous qu'ils deviennent? Les communautés ne les accueillent pas, ils n'ont pas de compétences qui leur permettraient de gagner de l'argent. Ils n'ont pas accès à l'école, alors que ça pourrait les occuper et les aider à devenir autonomes financièrement, capables de subvenir à leurs besoins. En parlant avec eux, et je parle avec eux tous les jours, je fais ça depuis 15 ans, j'ai entendu un jeune garçon me dire « Je n'ai pas choisi d'être enlevé, mais aujourd'hui, personne ne semble daigner vouloir m'aider à me remettre sur pied. »
Nobody seems to care to help me in the recovery process. What the LRA did, they were definitely very systematic because I think
la LRA a agi de manière très systématique car je pense qu'ils visaient intentionnellement la destruction totale de nos communautés. Par exemple, quand ils enlevaient un enfant dans un village, ils faisaient en sorte que ce soit ce même enfant qui attaque le village voisin juste à côté. Et dans notre contexte, en Ouganda, comme dans d'autres pays africains, même dans un rayon de plus de 20 km, on connaît toujours quelqu'un qui est le fils ou la fille d'un tel. Donc on peut se dire, ce sont les enfants de Jonah qui sont venus enlever mes enfants. Et c'est exactement ce que les rebelles voulaient, ce qu'ils ont cherché à créer. Il y a toujours aujourd'hui des tensions très importantes dans nos villages à ce sujet. Des enfants sont venus me voir pour me dire « Maman Jane », car beaucoup m'appellent maman. Tu vois ce garçon qui marche là, c'est lui qui a tué mon papa. C'est une stratégie qui a complètement fracturé nos communautés dans le nord de l'Ouganda.
Qu'est-ce qu'il faudrait concrètement pour ces enfants-là, pour éviter qu'ils soient eux aussi une génération sacrifiée comme celle de leurs parents qui a déjà été victime de la guerre civile et de la LRA ?
Ce qui devrait être fait pour ces enfants qu'on appelle les enfants nés de la guerre, c'est d'abord de les inscrire à l'école. Cela aura un impact positif pour toute leur vie future. Ce qui devrait être aussi prévu systématiquement, c'est un accompagnement psychologique, une thérapie pour traiter les traumatismes qu'ils portent avec eux. Nous avons commencé à lancer des dialogues de paix et de réconciliation au sein des communautés, mais nous ne pouvons plus vraiment en organiser maintenant, faute de ressources financières. Nous avons besoin de plus de moyens et de ressources humaines pour pouvoir mener à bien ce travail. Nous voulons pousser les chefs culturels, les leaders religieux, les chefs de village à se réunir autour de la table pour parler de ce problème de stigmatisation. Et nous voulons en parler à toute la communauté grâce à des émissions de radio notamment.
Oui, mais vous êtes une petite ONG, certaines autres ONG agissent aussi dans ce sens, mais sans politique nationale, c'est très compliqué.
Qui sait, cela viendra un jour. C'est vrai que nous avons besoin que ce sujet soit érigé en priorité nationale. Nous sommes arrivés à un point critique. Vous savez, beaucoup d'observateurs et la plupart des organisations internationales font une erreur au sujet de l'Ouganda. Ils croient que dès lors que les armes se sont tues, cela veut dire que la guerre était finie dans le nord de notre pays. Mais la recherche montre clairement que la réinsertion et l'émancipation des gens qui ont été victimes de la guerre prend deux fois plus de temps que la guerre en elle-même. Dans le nord de l'Ouganda, la guerre a duré 23 ans. Alors nous aurons besoin de 46 ans au moins pour réinsérer tous ces gens.
« 7 milliards de voisins » sur RFI, reportage de Charlie Dupio dans le nord de l'Ouganda et à Kampala, auprès d'anciens enfants soldats. Après la génération sacrifiée, que devient, Charlie Dupio, la deuxième génération, ces enfants qui sont nés en captivité?
J'ai rencontré la fille de Janet, dont vous avez entendu le terrible témoignage au début de l'émission. Cinderella est aujourd'hui une petite fille de 11 ans, elle est née d'un viol. Fluette et plutôt effacée dans le groupe, sa voix porte dès qu'elle commence à chanter. Elle est en pleine répétition juste avant le concert à Kampala, où la plupart des enfants se rendaient pour la première fois de leur vie. Il fallait voir leurs regards ébahis par les panneaux publicitaires et les centres commerciaux.
We shall overcome. I do believe. We shall overcome. Someday.
Cinderella, I wear a bear.
Cinderella, tu as bien chanté. Et pendant le concert, on attend que tu chantes encore mieux que ça. Et que tu souris. Tu as un très joli sourire.
Comment tu te sens là avant le concert?
Je suis heureuse d'être venue à ce concert pour chanter devant tous ces gens et je suis heureuse de voir Kampala. C'est la première fois que je viens dans la capitale et j'ai aussi hâte de rentrer pour retourner à l'école.
Alors, tu nous parles de l'école. À l'école, ta mère nous a raconté que tu as été victime déjà de violences par d'autres enfants qui te voyaient comme une fille de rebelle. Comment tu as vécu, toi, ça ?
Ces enfants m'insultaient. Ils me disaient que je faisais partie d'un groupe de rebelles et que je prétendais aimer l'école, mais que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout parce que j'étais une rebelle. C'était des élèves de mon école. En dehors de la classe, ils m'insultaient tout le temps, dès qu'ils me voyaient, que je sois à la maison ou au marché. Quand ils me croisaient, ils me traitaient toujours de rebelle, tout le temps. Je me souviens qu'ils m'ont aussi battue, 4 fois. Je l'ai dit à ma mère, et ma mère est allée prévenir la direction de l'école pour que les enseignants restent près de moi et me protègent. À l'école, au moins, ça s'est un peu calmé.
Et toi, comment tu te sens d'avoir été appelée aussi souvent rebelle ?
Je ne me sentais pas bien quand ils m'appelaient rebelle. Cela me mettait en colère et je pleurais. Ils m'embêtaient tout le temps et je pensais à la mort.
Tu as pensé à te donner la mort ?
Je pensais à m'allonger sur la route et attendre qu'une voiture passe sur moi, comme ça. Au moins, je n'aurais plus à écouter leurs insultes.
Ça fait 1 an et demi que tu es accompagnée par Children of Peace, que tu as rejoint donc une autre école, Alira, dans la ville, où tu vis en internat, où tu dors sur place. Maintenant, ça va mieux ?
Mes études se passent bien et les enfants ne m'insultent plus comme avant dans mon village. À l'école, je me sens maintenant heureuse et je me concentre sur mes cours. Je travaille dur.
Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Ta mère espère te voir un jour devenir infirmière. Est-ce que c'est ça que tu veux faire ?
Je veux être infirmière et sœur en même temps. J'aimerais travailler à l'hôpital. Comme ça, je serai aux yeux des autres une fille éduquée et plus une rebelle. Je veux être vue comme Cinderella, pas comme une fille née en captivité.
Je te laisse rejoindre les autres pour le concert.
Merci.
Thank you. You are the children of Peace Uganda Choir. Yo oh oh yo oh 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 oh.
Vous venez d'entendre Lonolo Fatsa, un gospel sud-africain interprété par le chœur des ONG Children of Peace et Voix sans frontières.
Oui, et j'aimerais terminer sur la force positive de la musique contre les armes, car après notre rencontre avec Janet dans son village, nous l'avons accompagnée en voiture jusqu'au village voisin où il y a quelques magasins. Et dans la voiture, Janet s'est mise à chanter. Vous ne verrez pas son visage, ni la petite lueur qui l'éclaire pour la première fois après des heures de récit. On a vu se dessiner un sourire sur son visage et puis surtout, elle nous a regardé.
C'était un reportage de Charlie Dupio en Ouganda, à Lira et à Kampala, à la réalisation Boris Vichit. Demain, 7 milliards de voisins débattent sur les diasporas africaines. Quel rôle pour l'avenir du continent?